Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Raphaël Kempf autour de son livre « Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes » paru aux éditions La Fabrique, une rencontre qui a eu lieu à Terra Nova le vendredi 18 octobre 2019.
Je viens vous parler de ce bouquin qui traite des lois scélérates. Et en guise d'introduction, je vais essayer de me raccrocher un peu à ce qui s'est passé ce matin. Bon, c'est un peu anecdotique, mais ça permet de lancer un peu le débat. Ce matin, je défendais avec une consoeur Ainhoa Pasquale Gaspard Glance, dont vous avez probablement entendu parler, où il était poursuivi pour une histoire de doigt d'honneur, et on a eu un débat avec le procureur, parce que je parlais d'une loi, pendant les débats qu'on a eus ce matin, je parlais d'une loi dont je parle pas dans le livre, parce que c'est pas une loi extrêmement importante, mais ça signale quelque chose. C'est une loi très récente de 2017 sur la sécurité publique, qui a été adoptée à la demande de syndicats de policiers, et qui, alors je vais être un peu technique, hein, désolé, mais qui fait passer le délit d'outrage d'une peine de 6 mois d'emprisonnement à une peine d'un an d'emprisonnement. Donc ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait ça a des conséquences très directes sur la situation des personnes qui sont placées en garde à vue pour outrage, parce que si vous êtes poursuivi pour un délit de 6 mois d'emprisonnement, votre garde à vue ne peut durer que 24 heures, ce qui est déjà trop, me semble-t-il, pour un délit d'outrage, mais bon, c'est pas le débat là. Et quand vous êtes poursuivi pour un délit puni d'un an de prison, vous pouvez être placé en garde à vue pour 48 heures. Donc on voit que c'est une modification tout à fait anecdotique d'un texte de loi en 2017 à la demande de syndicats de policiers qui est passé complètement inaperçu, mais qui a des conséquences très directes sur la situation des personnes, parce que alors là, l'outrage s'est utilisé contre Gaspard Glance et ça a fait du bruit parce qu'il est journaliste et tout ça. Mais il faut savoir que l'outrage est comme la rébellion, vous le savez probablement, au quotidien dans les quartiers populaires, pour enfermer, placer en garde à vue, juger en comparution immédiate des gens qui ont des interactions difficiles avec les forces de l'ordre, et souvent en raison du comportement initial des forces de l'ordre. Et donc moi je rappelais ça dans les débats devant le tribunal ce matin, en disant mais voilà, ça permet d'expliquer les raisons pour lesquelles Gaspard Glance a fait 48 heures de garde à vue et pas seulement 24 heures. Et le procureur a pris la parole derrière, il a dit « Maître, vous avez le droit de penser que cette loi est illégitime, mais c'est pas le débat dans un tribunal de dire qu'une loi est illégitime. » Alors j'avais pas employé le terme de scélérat, mais vous voyez le débat, on est un peu dans le même domaine. Et effectivement, je pense que c'est rarement le lieu, le tribunal est rarement le lieu pour venir critiquer les lois, parce que les tribunaux sont là pour appliquer les lois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous, avocats, on est là aussi pour dire comment doivent s'appliquer ces lois. Et on peut pas dire n'appliquez pas cette loi-là, sauf cas un peu particulier. Mais c'est pour vous donner un élément du contexte. Donc je suis heureux de venir ici ce soir, parce que ça me permet de dire que oui, en dehors du tribunal, certaines lois sont illégitimes ou scélérates. Et donc il faut pouvoir les abroger. Voilà, c'est pour poser les termes du débat un peu. Et maintenant, en guise d'introduction un peu toulousaine, parce que d'une certaine manière, ce livre, il est un peu né à Toulouse, indirectement, parce que pour ceux qui ont jeté un œil au bouquin, vous verrez que il y a la première partie, c'est moi qui l'ai écrite, et la deuxième partie, bon, vous allez me dire, c'est peut-être de la paresse, mais la deuxième partie, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est des textes qui sont republiés. Qui ont été publiés en 1898 et 1899 dans une revue qui s'appelle La Revue Blanche et qui était signée par Léon Blum, Émile Pouget et Francis de Pressensé, j'y reviendrai. Mais ces articles, en fait, je les ai découverts comment ? en préparant un procès que j'ai eu à plaider ici à Toulouse il y a quelques années. Donc c'était une personne qui était poursuivie pour un article qu'on l'accusait d'avoir publié sur un blog que vous connaissez probablement ici, et dans lequel, d'après la police et d'après l'accusation, des incitations à commettre des violences contre les policiers auraient été formulées. Et pour préparer ce procès, à l'époque, je m'étais renseigné sur l'histoire du texte de loi en application duquel il était poursuivi, et c'était le délit de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit qui est prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et en fait, ce délit de provocation, c'est le fait d'inciter des personnes à commettre un délit. Comme si je vous disais voler ce livre ou aller brûler cet hôtel de police ou casser la tête de ces policiers. Ça, c'est à titre d'exemple, hein, bien sûr, parce qu'on est enregistré. Ça pourrait caractériser le délit de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Et donc, en préparant ce procès, j'ai essayé de réfléchir, de chercher des sources historiques, etc. Et donc, je suis tombé sur ces textes de 98-99 qui ont été publiés non pas sur le délit de provocation en tant que tel, mais sur un délit qui est assez proche, qui a été créé par la première loi scélérate en 1893 et qui est le délit d'apologie de crime ou de délit. Donc là, le délit d'apologie, c'est pas le fait d'inciter quelqu'un à commettre un crime ou un délit, c'est le fait de présenter sous un jour favorable un crime ou un délit, et ça, c'est directement issu des lois scélérates. Et donc, j'avais été très touché par la lecture de ces textes, dont j'entendais me servir au cours d'une plaidoirie qui n'a pas eu lieu, parce qu'à l'époque, à Toulouse, et c'est fort heureux, le tribunal à l'audience, le parquet à l'audience, avait abandonné les poursuites contre cette personne pour des raisons de procédure, et c'était évidemment une excellente nouvelle. Mais en tout état de cause, j'ai découvert ces textes en préparant ce procès, et depuis, ça fait peut-être 5 ans, je ne sais plus exactement, ces textes ne m'ont pas quitté, et je les ai relus régulièrement, et je les ai souvent plaidés à droite ou à gauche dans des procès, et je m'en suis servi. Et je me suis dit que ces textes-là, il faudrait pouvoir les relire et les mettre à la disposition de vous et du public, quoi, parce qu'ils sont forts, ils sont utiles, ils nous disent des choses. Et voilà. Et donc j'ai rencontré une éditrice qui travaille à la Fabrique l'année dernière, et je lui dis ça. Et elle me dit: ah mais c'est très bien, mais en plus de ça, tu vas bosser. Tu vas pas juste rééditer les textes en question. Elle m'a dit: tu vas écrire un truc avant pour nous dire pourquoi il faut relire les textes. Donc voilà un peu la matrice et l'origine de ce livre et de la publication de ces articles. Donc en fait, les lois scélérates, ça vient d'où ? Donc pour le voir, il faut se replonger dans la période de la fin du 19e. Donc on est une vingtaine d'années après l'écrasement de la Commune, on est dans 1890, avant l'affaire Dreyfus, c'est pas sans incidence, on verra ça. Et il y a effectivement dans cette période-là en France des mouvements anarchistes, des groupes anarchistes qui sont développés sur l'ensemble du territoire national. Dans les années 1880, donc une dizaine d'années avant la période qui nous intéresse, il y avait des groupes anarchistes assez importants qui étaient basés sur Lyon. Et d'ailleurs en 1883, on a eu un procès important à Lyon, d'un certain nombre d'anarchistes qui étaient poursuivis pour le fait qu'ils adhéraient aux idées et aux théories anarchistes, non pas pour des gestes, des actes, des crimes ou des délits, mais parce qu'on leur disait: vous êtes anarchiste, donc en étant anarchiste, on considère qu'on peut vous appliquer la loi qui interdisait la Première Internationale et qui punissait de prison le fait d'appartenir à la Première Internationale. Et donc il y a un grand procès qui est le procès des 66, dont Kropotkin, voilà, c'est un peu le personnage le plus connu encore aujourd'hui de ce procès. Et c'est un procès qui est mené, qui est fait, hein, parce qu'un procès au pénal, c'est fait par un procureur, c'est lui qui vous convoque, qui vous accuse devant un tribunal. Donc ce procès est fait par un procureur qui s'appelle Fabreguette. Fabreguette, qui était un fin juriste, il faut bien le voir, mais un fin juriste extrêmement réactionnaire. Et donc à l'époque, il était procureur général de la cour d'appel de Lyon. Par la suite, il est devenu premier président de plusieurs cours d'appel, dont Toulouse, Nîmes, Toulouse, etc. Et c'est quelqu'un qui avait des idées extrêmement réactionnaires et qui s'est rendu compte que, au cours de ce procès de 1883, il était obligé d'utiliser l'artifice juridique consistant à appliquer à Kropotkin et à un certain nombre de ses camarades le délit sur punissant l'appartenance à la Première Internationale, parce que, selon lui, c'est ce qu'il dit très clairement dans des lettres adressées au ministre de la Justice à l'époque, parce que le vieux délit d'association de malfaiteurs qui datait de 1810 était inapplicable aux anarchistes. Pourquoi ? Parce que ce vieux délit d'association de malfaiteurs, qui n'a rien à voir avec le délit d'association de malfaiteurs tel que nous le connaissons aujourd'hui, était un délit qui exigeait la démonstration par l'accusation d'une hiérarchie, c'est-à-dire une structure avec des chefs, avec des... Alors, ça s'appelait pas exactement comme ça, mais des sous-chefs, des subordonnés, une structure criminelle, hiérarchique et pyramidale. Et donc, évidemment, Fabre-Guette a reconnu à l'époque qu'il était impossible d'appliquer le délit d'association de malfaiteurs aux anarchistes, parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'organisation hiérarchisée et pyramidale. D'ailleurs, ce qui est un peu incompatible avec l'idée qu'on se fait du mouvement anarchiste. Et il me semble que les réflexions de Fabre-Guette sont un peu à l'origine de la naissance, de la renaissance plutôt, du délit d'association de malfaiteurs une dizaine d'années plus tard, en 1893, par les lois scélérates. Et c'est d'une certaine manière au regard de cette impuissance du vieux délit d'association de malfaiteurs qu'on a recréé un nouveau délit d'association de malfaiteurs en 93. Alors comment elles sont faites, ces lois scélérates, et dans quel contexte elles font suite à un certain nombre d'attentats anarchistes, attentats dont l'histoire a été écrite par plusieurs auteurs, enfin à plusieurs reprises. Il y a une vague d'attentats. Alors c'est pas moi qui emploie l'expression de vague d'attentats, parce que c'est pas trop mon vocabulaire, mais c'est l'historien Jean Métron, donc qui a écrit, vous savez peut-être, une histoire de l'anarchisme en France en deux volumes, et c'est lui qui emploie cette expression. Sur 92-94, il y a plusieurs attentats. Et alors, en reprenant un peu la chronologie de ces attentats, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ça, il commence à la suite de violences policières impunies. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a toujours tendance à penser, même aujourd'hui quand on aborde la question du terrorisme, que ce sont des actes qui sont finalement dénués de toute explication, de toute justification, et donc qui ne sont que le fait d'illuminer complètement fou, etc. En fait, quand on regarde un peu dans le détail, on voit bien que les attentats anarchistes répondent à des raisons très précises. Et pour le voir, je vais vous parler de ce qui s'est passé le 1er mai 1891 en banlieue parisienne, à Clichy et Levallois-Perret. Le 1er mai 91, c'est assez connu parce que dans l'histoire de France, parce que c'est la fusillade de Fourmies dans le Nord, où des grévistes ont été, des manifestants ont été tués par les forces de l'ordre. Enfin, ça a été gravissime, on le sait. Mais au même moment, se déroule en banlieue parisienne une petite manifestation qui n'était pas encore une manifestation. En fait, c'était un groupe d'anarchistes qui voulaient se rendre à la manifestation du 1er mai, donc une des premières manifestations du 1er mai, et qui vont s'arrêter dans un débit de boisson sur le chemin de la manifestation. Et donc le commissaire du coin a été averti de la présence de cette troupe d'anarchistes. Il a trouvé ça absolument intolérable, et donc il a décidé d'envoyer un certain nombre de membres des forces de l'ordre. Et évidemment, quand les forces de l'ordre sont arrivées, ça a un peu dégénéré. Des coups de feu ont été tirés des deux côtés, et beaucoup des anarchistes, la plupart, ont pu prendre la fuite, mais trois d'entre eux ont été d'une part grièvement blessés, et pour l'un d'entre eux, le veillé très grièvement blessé, et ensuite arrêtés. Donc ils sont conduits au poste de police, ils font encore l'objet de brutalité policière, et ensuite ils sont présentés à un juge d'instruction qui dit, et c'est assez révélateur quand même, je refuse de les auditionner, de les entendre avant qu'on ait pu soigner leur plaie, ce qui était quand même un aveu des violences qu'ils avaient alors subies. Et quelques mois après, ils passent en procès devant la cour d'assises, et lors de ce procès, il y a un avocat général qui s'appelle Bulot, qui va requérir contre l'un des trois anarchistes la peine de mort. Et donc c'était des réquisitions qui apparaissaient complètement folles, parce que les anarchistes en question n'avaient pas tué, et demander la peine de mort contre des personnes qui n'avaient pas tué à l'époque où, bon, la peine de mort existait, sauf en matière politique, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais la peine de mort existait, et c'était déjà intolérable d'appliquer, même en droit commun, la peine de mort à des gens qui n'avaient pas tué. Donc il requiert la peine de mort, il ne l'obtient pas, les anarchistes, sauf l'un d'entre eux, le veillé, les deux autres sont condamnés à des peines de quelques années de prison, et quelques mois après, Ravachol, qu'on connaît bien, va déposer des bombes dans les immeubles, les domiciles du président de la cour d'assises, Benoît, et de l'avocat général, Bulot. Et donc il va être arrêté dans des conditions rocambolesques qui ont été écrites plusieurs fois, que je rappelle un peu dans le livre, et il va passer en procès pour ses actes, Et alors, je vais vous lire un petit extrait de ce que dit Ravachol, de ce que dit Ravachol à son procès, parce que c'est assez fascinant et ça, ça raconte un peu pourquoi il a fait ça. Et je pense que c'est important qu'on sache pourquoi, pourquoi à un moment donné, quelqu'un qui reconnaît avoir commis un crime l'a commis. Alors Ravachol, il dit « J'ai à dire, je cite, les motifs qui m'ont déterminé. Parce que M. Benoît, donc le président, avait été trop partial. Quand le jury avait demandé, dans l'affaire de Candardard, donc les deux autres anarchistes demandaient le minimum, M. Benoît a élevé la peine au maximum. Et deuxièmement, parce qu'il n'a fait aucune attention aux violences exercées par les gardiens de la paix, on ne leur a pas seulement donné de l'eau pour laver leurs plaies. Quant à M. Bulot, l'avocat général, il avait demandé la peine de mort contre Decamps, qui est père de famille. J'ai voulu faire comprendre à tous ceux qui ont à appliquer des peines qu'il fallait à l'avenir qu'ils soient plus doux. » Donc on voit bien, on en pense ce qu'on veut, hein, je suis pas là pour juger, mais on voit bien qu'il y a des raisons. Enfin, c'est quelque chose de fondamental, c'est pas quelque chose qui sort de l'esprit d'un illuminé. Quelques mois plus tard, en décembre 1893, il va y avoir un attentat qui va être commis par Auguste Vaillant, donc un jeune anarchiste qui a une vie à peu près, enfin complètement rocambolesque. Enfin, il est parti en Amérique latine, puis il a été, enfin, il s'est retrouvé dans la misère, etc. Enfin, je vous renvoie pour les biographies des anarchistes. Il y a un dictionnaire en ligne qui s'appelle le dictionnaire Métron. Et c'est tout à fait fascinant, enfin, de lire les biographies des gens dont je parle dans le bouquin et de plein d'autres. Enfin, voilà, c'est un outil de travail tout à fait fascinant. Et donc, Vaillant, le samedi 9 septembre 1893, il va aller à l'Assemblée nationale, qui à l'époque s'appelait la Chambre des députés. Et il va lancer dans l'enceinte de l'Assemblée une bombe qu'il avait préparée avec des clous dans sa chambre d'hôtel dans les jours précédents. Donc il fait ça par conviction anarchiste et pour viser une institution, les représentants d'une institution qu'il considérait comme critiquable, voilà, pour des raisons liées à ses convictions politiques. Cette bombe, elle va faire quasiment aucun blessé. Il y aura quelques blessés légers. On va, et ça c'est un point me semble-t-il fondamental pour ce que j'essaye de dire et ce que j'essaye de raconter sur la manière dont réagit la République face aux attentats, face à ce qu'on appelle le terrorisme. Il lance sa bombe, ça prend une vingtaine de minutes pour évacuer un peu les blessés, et donc là le président de la Chambre des députés, Monsieur Dupuis, va dire « Messieurs, la séance continue ». Et juste après ça, on le lit, on le voit très bien quand on lit le journal officiel qui retranscrit les débats mot à mot qui avaient lieu à l'Assemblée nationale à l'époque. Les débats reprennent immédiatement, qui portaient à l'époque sur la validité des opérations électorales concernant un député dans je ne sais plus quelle circonscription, pour tout dire. J'ai oublié ce point-là, mais on voit que effectivement, il y a un attentat, il se passe quelque chose, on évacue les blessés, mais le débat parlementaire continue. Et donc ça, cet événement-là et cette reprise du débat parlementaire est utilisée de nos jours par certains défenseurs de la République et de l'état de droit à la française et de la tradition des valeurs de la République, enfin tous ces mots dont ils nous bassinent les oreilles à longueur de journée, est utilisée par un juriste qui s'appelle Christian Vigouroux, qui a écrit un livre, me semble-t-il, assez mauvais il y a quelques années, qui s'appelle « Du juste exercice de la force ». Donc Christian Vigouroux, pour vous situer un peu le personnage, c'est un conseiller d'État, donc un membre de la plus haute juridiction administrative française, d'ailleurs comme Léon Blum, hein, j'y reviendrai, hein, qui était membre lui aussi du Conseil d'État. Le Conseil d'État, pour vous donner une idée, c'est la juridiction qui, par exemple, a validé les assignations à résidence des militants écologistes prises en novembre-décembre 2015, juste après l'instauration de l'état d'urgence, pour vous donner une idée de ce que c'est. Le Conseil d'État, c'est, pour donner un exemple un peu qui parle un peu, c'est l'institution qui a validé la fiche S de Gaspard Glanz, sans même qu'on ait pu, nous, avoir du côté de la Défense, accès aux éléments auxquels le Conseil d'État a eu accès pour valider cette fiche S. Vous voyez, c'est pour donner une idée de la manière dont fonctionne cette juridiction. Donc Christian Vigouroux est membre du Conseil d'État et a été directeur de cabinet de plusieurs ministres de la Justice et de l'Intérieur, donc dans les années qui précèdent. Et donc sa parole, d'une certaine manière, peut être considérée comme une parole pas officielle, mais quasi officielle, des juristes d'État qui pensent et qui fabriquent le droit et qui appliquent le droit aujourd'hui. Et donc lui, dans son livre, il dit la France a une tradition de garder son sang-froid face à la terreur et de respecter les libertés fondamentales et les principes de la République et du débat parlementaire en toutes circonstances. Et donc il dit dans son bouquin, mais la preuve c'est ce qui s'est passé le samedi 9 décembre 93. Alors même qu'il y a un attentat, on continue à parler de sujets complètement anecdotiques. Il me semble que même Christian Vigouroux, pour donner un peu de saveur à son propos, dit que la discussion reprend non pas sur les opérations électorales concernant l'élection d'un député, mais qu'elle reprend sur les prix du beurre. Parce que c'était peut-être, je sais pas, plus vendeur, je sais pas, quand il donnait les interviews. Mais en fait, il dit ça, et pour moi, déduire de cet événement et de la réaction de, du président de l'Assemblée nationale, le fait qu'il y aurait en France une tradition de réagir avec sang-froid aux attentats terroristes, je pense que c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que deux jours après, le lundi 11 décembre 1893, le président du Conseil de l'époque, donc Casimir Perrier, se présente à l'Assemblée avec un projet de loi qui est la première de nos trois lois scélérates. Et donc ce projet de loi, c'est un projet de loi dont il ne va même pas donner copie du texte aux députés, par exemple. C'est-à-dire que les députés, on leur demande de voter un projet de loi en disant « Mais attendez, non, on n'a pas à vous donner copie du texte, vous avez été victime d'un attentat gravissime, vous n'avez même pas à lire, il faut absolument le voter pour lutter contre les anarchistes et contre la terreur dont vous avez été victime. » Et donc les députés ont voté ce texte sans se poser de questions. Alors quelques-uns ont bien essayé, par exemple, de faire reporter la discussion au lendemain. Donc ils demandaient juste 24 heures de discussion. Il y en avait même un qui demandait même ne serait-ce qu'une demi-heure de suspension de séance pour que les députés puissent prendre connaissance du texte. Et donc les députés ont refusé. Ils ont voté après sur ces propositions de certains de leurs collègues. Ils ont refusé toutes ces propositions. Ils ont fini après une heure ou deux de débat, à peine, par voter ce texte qui est la première loi scélérate. Et donc on voit bien que cet événement, contrairement à ce que nous raconte Christian Vigouroux, est un événement qui montre très précisément que face à la terreur, enfin, excusez-moi, terreur avec beaucoup de guillemets, c'est les termes qu'utilise le gouvernement pour justifier l'adoption de ce genre de texte. Face à ce type d'attentat, à ce type d'événement, eh bien en France, on n'a pas une tradition de garder son sang-froid. Bien au contraire, on a une tradition de faire passer des textes de loi liberticides sans même les discuter. Et donc, cette première loi, elle punit l'apologie. L'apologie de crime ou de délit dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui est le fait de tourner sous un jour favorable un crime ou un criminel, et ce qui a permis par exemple de punir dans les années qui ont suivi des personnes qui avaient tenu des propos du genre « vive Ravachol, vive l'anarchie ». C'est-à-dire qu'en fait vous disiez « vive l'anarchie » puis vous pouvez vous retrouver en prison. Voilà, j'y reviendrai, mais aujourd'hui c'est assez passé inaperçu, mais l'apologie dans sa variante terroriste permet d'envoyer aujourd'hui, en 2015, et un peu moins en 2019, mais surtout en 2015, des gens en prison. Je vais vous raconter ça maintenant, c'est plus simple. Donc il y a eu en janvier 2015, bon voilà, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Et quelques mois auparavant, le 13 novembre 2014, est adoptée une loi, qui est une loi qui a été adoptée à l'initiative de Bernard Cazeneuve, qui est aussi une des cibles, un des types que j'essaie de cibler un peu dans mon livre, parce que je pense qu'il a fait beaucoup de mal aux libertés fondamentales, beaucoup de mal au droit, à ce qu'on peut espérer, à ce qu'on peut penser être un état de droit. Et dans cette loi du 13 novembre 2014, Bernard Cazeneuve fait passer le délit d'apologie du terrorisme. Je vais être un peu technique, hein, vous m'interrompez s'il y a quoi que ce soit, mais il fait passer le délit d'apologie du terrorisme de la loi de 1881 sur la liberté de la presse dans le code pénal. En deux mots, la loi de 81 sur la presse, il faut savoir qu'elle s'appelle loi sur la liberté de la presse et elle existe encore aujourd'hui, heureusement, mais c'est une loi qui en fait protège toutes les expressions de la parole, de la pensée, de l'écrit. En fait, c'est une loi qui protège et la liberté d'expression et qui punit certains abus de la liberté d'expression. Et donc par exemple, moi je suis pas journaliste, mais si au cours de cette conférence je tenais des propos qui pourraient être passibles de je sais pas d'apologie par exemple, enfin d'apologie de crime, pas d'apologie de terrorisme ou de provocation, eh bien je pourrais être puni même si je suis pas journaliste en application de cette loi de 1881. Et donc cette loi de 1881, elle est protectrice de la liberté d'expression parce que elle interdit par exemple, ou elle limite drastiquement, mais dans les faits c'est quasiment une interdiction, la possibilité d'envoyer en prison en préventive des personnes accusées de délits de parole. C'est-à-dire que, en gros, si là, au cours de cette conférence, je commets un délit en vous disant des choses qui sont prévues par cette loi, eh bien, on pourra éventuellement me convoquer au commissariat et me faire passer en procès pour que je sois jugé, mais on pourra pas m'envoyer en prison dans le temps de du procès. Et donc, quand en 2014, case 9 fait passer l'apologie du terrorisme dans le code pénal, il autorise par cet artifice procédural l'utilisation de la comparution immédiate pour le délit d'apologie du terrorisme. Donc la comparution immédiate, vous avez probablement tous un peu entendu ce que c'est, mais c'est une machine à incarcérer. Ça juge tous les jours, à Toulouse, je pense aussi, à Paris, enfin parce que je le vois tous les jours dans mon métier, etc. Ça juge tous les jours de la petite délinquance de rue, du quotidien, et ça vise évidemment souvent des personnes racisées, étrangères, qui commettent ou à qui on reproche plutôt des délits de voie publique. Enfin voilà, et ça envoie en prison. C'est une machine à incarcérer parce que si, par exemple, vous demandez un report de votre procès en comparution immédiate pour préparer votre défense, vous avez plus de chances d'être envoyé en préventif que selon une procédure normale. Donc, faire juger l'apologie du terrorisme dans le droit commun, c'est permettre la comparution immédiate et c'est permettre d'envoyer en prison très concrètement aujourd'hui des gens pour délit de parole. Et c'est ce qui s'est passé en 2015. Donc, je reviens en janvier 2015, les attentats. Juste après, Christiane Taubira prend une circulaire que moi je qualifie de circulaire scélérate, dans laquelle elle demande aux procureurs de toute la France d'appliquer avec la plus grande sévérité, et y compris au moyen de la comparution immédiate, les personnes poursuivies pour apologie du terrorisme. Alors, et je pense que c'est assez révélateur parce que Christiane Taubira, elle est respectée dans un champ qui va un peu au-delà de la gauche parlementaire pour tout un tas de raisons. Enfin, là, je ne vais pas vous donner mon avis sur Christiane Taubira, mais ce qu'on voit, c'est que même des personnes en lesquelles un certain nombre de gens peuvent penser qu'on peut avoir confiance, que ce sont des gens qui vont en toutes circonstances défendre les droits et libertés, etc., eh bien, on voit que même quelqu'un comme Christiane Taubira, après les attentats, après une circulaire scélérate qui a permis d'emprisonner des gens qui avaient pu tenir des propos, par exemple, apologétiques des attentats contre Charlie Hebdo, ce qui est, à mon sens, enfin, à titre personnel, intolérable. Mais en général, quand on regarde les dossiers, ces propos sont tenus dans des contextes très particuliers de fragilité sociale ou psychologique ou d'alcoolisation ou dans le cadre d'un contexte de, on va dire, d'interaction un peu difficile avec les forces de l'ordre. Et on sait que souvent les forces de l'ordre peuvent créer de la tension qui peuvent aboutir à des délits d'outrage, hein, comme Gaspard Glance et plein d'autres, ou à ce que des propos voilà, qualifiables d'apologie du terrorisme soient tenus. Et donc ces gens-là ont été, pour certains, envoyés en prison, très concrètement. Voilà. Donc ça, c'est le devenir du délit d'apologie de notre première loi de décembre 1893. La deuxième loi de décembre 1993, c'est la loi sur les associations de malfaiteurs. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'association de malfaiteurs, elle existe depuis les lendemains de la Révolution française, mais en fait, elle a plus rien à voir avec ce qui se fait en 1993. En 1993, on va créer l'association de malfaiteurs en utilisant un terme qui est un terme extrêmement vague et qui donc autorise toutes les interprétations et qui permet de l'appliquer à dans des situations tout à fait, enfin, énormément de situations. Et ce terme-là, c'est le terme d'entente et de participation à une entente. Et donc, en gros, l'association de malfaiteurs, ça a pour objet de punir les gens avant qu'ils n'aient fait quoi que ce soit. Et donc, pour essayer de les punir en application de ce texte, on va dire « Ah, mais vous participiez à une entente qui avait pour but de commettre des crimes ou des délits. » Et donc, ce terme est tellement vague qu'il autorise tous les abus. Et ce terme est encore aujourd'hui présent dans nos lois. Et donc, il a été appliqué très rapidement, dès le 1er janvier 1994, où il y a eu des rafles qui ont été menées à la demande de la préfecture de police, notamment à Paris, mais dans toute la France, pour des rafles, enfin, de policiers qui allaient au petit matin le 1er janvier 1994 chez tout un tas d'anarchistes, considérés comme anarchistes par les renseignements policiers, dans les rédactions de journaux anarchistes, et qui se sont fait perquisitionner, certains d'entre eux arrêtés, certains d'entre eux envoyés en détention préventive, etc. Donc il y a une première application très rapide de la loi sur l'association de malfaiteurs. Cette période, donc là on est décembre 93, puis janvier 94, puis ensuite avril 94, il y a un événement un petit peu intéressant, c'est la rafle continue, et notamment l'arrestation d'un dénommé Félix Fénéon, pour qui j'ai une sympathie, un attachement un peu particulier, parce que c'est une espèce de dandy anarchiste qui est aussi un littérateur, qui est un collectionneur d'art et tout. Enfin, il a une vie tout à fait passionnante, et qui était aussi le directeur de la Revue Blanche, qui va publier les textes que je réédite dans le bouquin. Donc lui, il se fait arrêter, Félix Fénéon, il est envoyé en prison. Et donc, lui et un certain nombre d'autres anarchistes vont être jugés au mois d'août 94, donc quelques mois après, dans le cadre du procès des 30. Et alors, entre le procès des 30 et ce mois d'avril 94, il y a un autre événement, excusez-moi, je reviens, mais c'est... J'espère que c'est un peu clair sur la chronologie, mais en juin 94, il y a l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par l'anarchiste italien Caserio à Lyon. Et juste après cet attentat, comme en décembre, tout de suite le gouvernement va venir à l'Assemblée avec un nouveau projet de loi scélérate, et ce sera la troisième loi scélérate qui s'appelle « Loi sur les menées anarchistes ». Alors cette troisième loi, c'est un peu la pire des trois, et aujourd'hui elle n'existe plus, elle a été abrogée en 92. Et cette loi, par exemple, elle prévoyait, elle permettait de punir la propagande anarchiste secrète. C'est-à-dire que si, là, dans une réunion publique, cet endroit est public, n'importe qui peut rentrer dans cette librairie, je tiens des propos apologétiques, je pouvais être puni. Mais si tout d'un coup on discute juste à une dizaine et qu'on ferme les portes et qu'on est dans un lieu privé, si je tiens des propos apologétiques, je ne pouvais pas être poursuivi avant la loi de juillet 94. Ce qui veut dire, c'est que cette troisième loi scélérate, elle punit l'intimité, les propos tenus dans l'intimité de conversations privées. C'est pour donner une idée de... Donc ça donnait un pouvoir considérable aux délateurs, aux informateurs de police qui pouvaient dire « Ah mais lui, je l'ai entendu, il a dit ceci, cela, etc. » Et une autre conséquence de cette loi, c'est qu'elle prévoyait aussi la relégation. Alors la relégation, c'est un truc qu'on a un peu oublié, mais qui en gros était prévu pour envoyer au bagne, essentiellement à Cayenne et un peu en Nouvelle-Calédonie, les personnes qui étaient considérées comme récidivistes. Et en gros, les récidivistes punis pour des petits délits, au bout de 7 condamnations, on les envoyait automatiquement au bagne. Et l'idée, c'était de les écarter de la métropole, parce qu'on disait « Ah, mais ce sont des incorrigibles, il faut les envoyer au bagne, etc. » Ça a été une tragédie, enfin un désastre, enfin une violence, enfin bon bref, tout ce que vous voulez. Il y a une histoire de la relégation qui a été écrite par certains, c'est tout à fait fascinant. Et donc ce truc de la relégation qui était prévu pour genre les vagabonds, quand je dis vagabonds, c'est un terme juridique, parce qu'à l'époque, le délit de vagabondage existait. Donc cette relégation qui était prévue pour les vagabonds récidivistes, tout d'un coup on se dit on va l'appliquer aux anarchistes. Et donc cette troisième loi, elle permet ça. Le dernier truc qu'elle permet, c'est d'interdire la publication dans la presse des propos tenus aux audiences par les anarchistes. Et donc ça, c'est quelque chose de scandaleux, parce que ça revient sur un principe du droit en France qui existe depuis la Révolution française, et pour lequel on a fait une révolution. Et le fait de retranscrire dans les journaux les propos tenus aux audiences, ça assure une publicité au débat de ces audiences. Et d'ailleurs, les anarchistes l'avaient bien compris, parce que lorsqu'ils passaient en procès, ils transformaient le tribunal en tribune. Et ils faisaient le choix de faire des professions de foi politiques, parce qu'ils savaient qu'elles allaient être reproduites quasi intégralement dans les journaux, y compris dans des journaux qui n'étaient pas du tout de leur bord politique, et donc que ça allait pouvoir être un instrument de propagande. Donc on voit que cette troisième loi scélérate, elle est dure quand même. Et donc un mois après, donc mois d'août 94, je reviens à mon procès des 30, on va juger Félix Fénéon et un certain nombre d'autres, et donc 29 autres anarchistes, hein, vous l'avez compris, pour association de malfaiteurs, et on va leur appliquer aussi notamment l'interdiction de reproduction des débats, notamment pour les propos tenus par des anarchistes connus à l'époque comme Jean Grave et Sébastien Faure, qui étaient considérés comme des théoriciens de l'anarchisme. Et donc Félix Fénéon, lui, à l'époque, il n'était pas connu, aussi connu que les autres, et donc il n'était pas considéré comme un théoricien aussi important que les deux autres. Donc les tribunaux n'ont pas, enfin la cour d'assises à l'époque n'a pas jugé utile d'interdire la reproduction de ses propos. Et je vais vous dire sincèrement, heureusement, parce que ça nous permet de les connaître aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, Félix Fénéon à l'époque, il travaillait pour la Revue Blanche, mais la journée il avait un job alimentaire, et son job alimentaire c'était au ministère de la Guerre. Hein, voilà. Et donc il est perquisitionné, je vous l'ai dit tout à l'heure, en avril. Et dans son bureau du ministère de la Guerre, on va trouver des détonateurs des produits pouvant servir à la confection des explosifs. Alors lui, sa défense, c'est de dire que c'était son père décédé peu avant qui les lui avait légué en héritage. Si j'avais eu à défendre cette affaire, je ne pense pas que j'aurais conseillé à mon client de tenir une telle ligne de défense. Mais bon, bref, c'est la ligne qu'il a choisie. Et en fait, il s'en est sorti grâce à sa verve et à son à ses réponses au président. Je vais vous les lire, comme ça, ce sera plus simple. Vous jugerez sur pièce. Alors, le président lui dit « Donc, monsieur Fénéon, vous étiez également l'ami d'un anarchiste allemand nommé Kampfmeyer. » Fénéon répond « Kampfmeyer ne sait pas le français. » J'ignore l'allemand, nos conversations ne pouvaient pas être bien subversives. Le président lui dit « Mais vous n'aviez pas dit devant les policiers que vous connaissiez un tel. » Fénéon répond « Il me répugne de donner des renseignements sur quelqu'un. » Alors ça, oui, ça c'est bien. Gardez le silence. Petit conseil. « Si l'on m'en avait demandé sur vous-même, monsieur le président, j'aurais observé la même réserve. » Et donc bien sûr, on arrive au cœur du débat, hein, à savoir ces explosifs retrouvés dans son tiroir du ministère de la guerre. Donc le président lui dit « Donc il résulte de l'expertise que chacun de ces 11 détonateurs constitue un engin dangereux. » Fénéon répond « Je le sais maintenant, je l'ignorais alors. » C'est très très mauvaise ligne. Enfin, moi. Le président lui dit « Le mercure sert à la confection des explosifs. » Fénéon répond « Et des baromètres. » Bon voilà. Je pense qu'à cette audience, ils ont quand même réussi d'une certaine manière à renverser la vapeur, à ridiculiser l'accusation. Et à l'époque, toutes ces archives sur les, donc je les trouve dans la presse. Hein. On trouve la presse en ligne sur Internet. La BnF a fait un site formidable pour lire les journaux de l'époque. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. Et on les trouve aussi dans un bouquin. À l'époque, il y avait un journaliste du Figaro qui était un chroniqueur littéraire qui publiait chaque année en gros une collection de ses articles sur tous les procès qu'il avait suivis. Donc évidemment, le recueil de 1894, il est intéressant parce qu'on trouve les procès d'Auguste Vaillant, procès des 30, le procès de Jean Grave, etc. Et donc, au premier jour du procès, le chroniqueur judiciaire du Figaro, qui n'est pas connu pour être proche des anarchistes, il va dire « c'est quand même bizarre ce que nous présente le parquet à cette audience, parce qu'on nous parle d'associations de malfaiteurs, mais moi je vois devant moi des accusés qui se sont connus dans le bureau du juge d'instruction, qui ne se connaissaient pas auparavant. » Et d'ailleurs, si on veut regarder un peu les dossiers d'associations de malfaiteurs aujourd'hui, c'est un peu souvent comme ça. Que ce soit en matière politique ou que ce soit en matière de trafic de drogue, de je sais pas quoi, enfin en matière de droit commun. Donc voilà, donc ce procès a été une vaste blague. Ils ont ridiculisé enfin l'accusation. Ils ont quasiment tous été acquittés. Voilà. Donc là, on est en août 94. Les lois scélérates sont adoptées. On se dit que c'est bon. On a gagné au procès des 30 et que l'affaire est dans le sac. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va pas trop se voir, mais il va y avoir un certain nombre d'autres procès qui seront moins visibles, qui n'auront pas les honneurs de la grande presse, etc. Mais où un grand nombre d'anarchistes vont être sanctionnés en application des lois scélérates et envoyés effectivement au bagne. Et donc là, on est en août 94, et juste après septembre 94, c'est le début de l'affaire Dreyfus. Et ça a une importance, Dreyfus, il est jugé par le Conseil de guerre quelques mois par la suite, et il est envoyé au bagne, à l'île du Diable à Cayenne, au début de l'année 1895. Et donc en fait, on sait que l'affaire Dreyfus, ça va mettre quand même quelques années avant qu'un certain nombre de gens se soulèvent et disent « bah voilà, c'est quand même un problème, etc. » Mais c'est vers l'année 97, 98, Zola, j'accuse, etc., qu'on va commencer à parler publiquement de l'affaire Dreyfus et qu'un certain nombre de gens vont dire que l'affaire Dreyfus, c'est un scandale. Et donc les anarchistes, ils observent l'affaire Dreyfus un peu avec circonspection. Parce qu'ils se disent « non mais bon, l'affaire Dreyfus, c'est bien gentil, mais ça reste un militaire ». Et ça reste un membre de la bourgeoisie. Donc deux choses honnies par les anarchistes. Et ils disent, pendant ce temps-là, nous, nos camarades, ils sont au bagne. Et nous, nos camarades, depuis des années, on dit dans nos journaux qu'ils sont au bagne et que c'est dégueulasse, etc. Et personne prend la parole pour les défendre. Et donc au début, il y avait un peu les anarchistes, ils voulaient pas, à l'exception de l'un d'entre eux, Bernard Lazare, mais ils voulaient pas forcément prendre la défense du capitaine Dreyfus. Et donc là, il va y avoir une personnalité, encore Félix Fénéon, qui va créer une espèce d'alliance. Alors il n'y a pas que lui, mais qui va créer une espèce d'alliance entre, une espèce de frange de la bourgeoisie libérale, attachée à la défense des droits et libertés, qui va prendre le parti du capitaine Dreyfus, et les anarchistes. C'est une alliance qui va être de courte durée, mais qui va aboutir à la publication des articles qui nous intéressent aujourd'hui. Et je pense que c'est un moment important. Parce que quand on regarde les articles, ils sont publiés en 98-99. contre les lois adoptées 5 ans auparavant. Donc c'est quand même déjà quelque chose de bizarre. C'est, bon, on est en 2019, je pourrais écrire un article contre l'état d'urgence, mais bon, personne ne le lirait, ce serait pas... vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même étonnant que, voilà, que y ait eu 5 ans entre ces deux événements. Et en fait, ça s'explique selon moi par l'affaire Dreyfus. Et par justement le fait que certains comme Francis de Pressensé, donc Francis de Pressensé c'est celui qui signe le premier article dedans qui s'appelle « Notre loi des suspects ». Francis de Pressensé c'est un journaliste plutôt mainstream qui était même favorable ou qui travaillait pour un journal qui était favorable à la répression des anarchistes et qui par la suite sera député et président de la Ligue des droits de l'homme mais qui va complètement basculer au moment de l'affaire Dreyfus et qui va prendre le parti du capitaine Dreyfus et qui va, on va attirer son attention là-dessus, qui va aussi prendre le parti des anarchistes et il va faire des meetings, à Paris essentiellement avec des anarchistes en défense à la fois du capitaine Dreyfus et des anarchistes envoyés au bagne. Et donc là il y a une alliance qui est tout à fait inédite et extraordinaire, c'est-à-dire que Pressensé il dit non mais moi je suis pas anarchiste mais c'est mon honneur de combattre avec eux contre les lois scélérates et pour le capitaine Dreyfus. Et dire ça, c'était très courageux de sa part parce que il a été traîné dans la boue. Enfin, à l'époque, par la presse, enfin voilà. Et souvent, les meetings se terminaient parfois en bataille de rue avec l'extrême droite qui venait dans les rues de Paris et que y avait, enfin, ça, c'était le coup de poing, quoi. Donc voilà, c'était quand même courageux de sa part. Il dit, c'est mon honneur de le faire, même si moi-même, je suis pas anarchiste. Et donc, Félix Fénéon, comme je vous ai dit, il dirige cette revue blanche. Il est anarchiste, il a été emprisonné en application des lois scélérates, et lui, il connaît un peu tout ce monde-là. Il connaît à la fois Léon Blum, qui à l'époque est un jeune magistrat au Conseil d'État, il connaît Pressensé, il connaît Émile Pouget, qui frayait pas du tout. Émile Pouget, c'est un anarchiste, enfin, il dirigeait le père Pénard, etc. Ça n'a pas été un des premiers des Dreyfusards, hein, Émile Pouget, bien au contraire. Mais Félix Fénéon, il a réussi à joindre ces personnes ensemble et à faire éditer les articles qui sont publiés ici et donc voilà qui sont édités contre les lois scélérates enfin en 98 et 99. Donc voilà sur le contexte historique, enfin vous lirez dans le bouquin comment ces lois elles sont au fil du temps appliquées au-delà des anarchistes, au-delà de ceux qui étaient initialement visés. Par exemple aux communistes dans l'entre-deux-guerres, aux militants de l'Algérie indépendante, plus tard à l'affaire Tarnac et aujourd'hui l'association de malfaiteurs elle est utilisée en matière politique mais aussi au quotidien dans des dossiers de droit commun et aussi en matière d'association de malfaiteurs terroristes où tous les jours à Paris parce qu'il y a une compétence nationale, tous les dossiers de terroristes sont traités à Paris où la 16e chambre qui est spécialisée dans ces affaires va juger quotidiennement des gens pour des associations de malfaiteurs terroristes sur la base d'éléments qui m'apparaissent très souvent très très faible et très très insuffisant, mais pourtant ils se prennent très régulièrement des peines à deux chiffres, quoi. Enfin c'est un abattage et c'est un abattage dans l'ombre. C'est-à-dire que quand on défend des gilets jaunes, on a 50, 40, 80 personnes dans la salle d'audience, il y a les journalistes, il y a du soutien, etc. Quand on défend des terroristes à qui on reproche d'avoir eu un contact par l'intermédiaire de Telegram avec un djihadiste présent sur zone, alors même que l'intéressé n'a pas forcément envie d'aller lui-même en Syrie ou en Irak faire le djihad, eh bien, on a personne dans la salle d'audience. On nous donne 3000 journées d'audience pour examiner des dossiers qui sont extrêmement volumineux. On plaide à 22h devant personne, à part un ou deux journalistes parfois et un sociologue qui fait un travail formidable sur ces questions-là. Mais voilà, voilà un peu la réalité de l'utilisation de l'association de malfaiteurs aujourd'hui. Donc voilà, en guise de... Après, vous allez me poser des questions, peut-être. Mais voilà, un peu en guise de conclusion, je voudrais vous dire que... Moi, ce que j'essaye de dire ce que j'essaye de faire dans le bouquin, c'est d'essayer de dire que voilà, faut relire ces textes. J'essaye de dégager des indices qui permettent de dire que telle loi est une loi scélérate ou pas une loi scélérate. Et surtout, je trouve que c'est utile de se ressaisir du terme loi scélérate. Il n'avait pas été complètement oublié, mais c'est utile si ce bouquin peut servir à quelque chose et qu'il peut avoir un effet politique. Et que ce serait que le terme soit réutilisé et que des campagnes puissent être menées pour l'abrogation de lois scélérates comme la loi du 13 novembre 2014 dont je vous parlais tout à l'heure, la loi sur l'état d'urgence, la loi qui met l'état d'urgence dans le droit commun, la loi sur le délit de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations qui est une espèce d'association de malfaiteurs light et qui a été utilisée massivement contre les manifestants et contre les gilets jaunes. Enfin, voilà un peu les idées que j'essaye de... et qui en fait sont les idées d'Émile Pouget, notamment, enfin Léon Blum et Pressensé, qui disent il faut abroger les lois scélérates, il faut demander l'amnistie des condamnés qui ont été victimes de ces lois-là. Voilà un peu ce que j'essaye de faire avec ce livre. Vous avez peut-être des questions hein. n'y a pas de questions, alors je peux peut-être... Non, mais je sais pas, je viens de voir un truc sur mon papier, donc j'en ai pas parlé, donc peut-être que je peux vous en parler. J'en parle pas dans le bouquin, donc c'est un peu une exclue. C'est en fait ça m'est venu à l'idée parce que depuis une semaine, il y a, vous savez, on parle de la société de vigilance, enfin excusez-moi, le président de la République Emmanuel Macron a parlé de société de vigilance à la suite des assassinats de la préfecture de police de Paris. Il a dit il faut pouvoir détecter les signes de radicalisation et que chacun soit vigilant à jouer un barbu là au fond de la salle, enfin bon, bref, ce genre de signes qui serait qui démontrerait que la personne est sur la voie de commettre un attentat terroriste. Alors moi je trouve que c'est gravissime d'appeler comme ça à des formes de délation, parce que c'est ni plus ni moins ça, la plus haute autorité de l'État qui dit dénoncez-vous les uns les autres, enfin, et prévenez si vous êtes prof, allez dire à vos supérieurs, etc. Enfin voilà. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il existe déjà dans la loi des dispositifs qui permettent de prendre des mesures de contrainte à l'égard de personnes sur la base d'informations policières qui ne sont pas connus et qui ne sont pas débattus contradictoirement. C'est la loi Savary de 2016. Alors Savary, on l'a complètement oublié, mais bon, bref, on s'en fout. C'était un député PS à l'époque où Hollande était encore au pouvoir. Et il a fait une loi contre le terrorisme et la fraude dans les transports en commun. C'est quand même... Enfin, vous voyez à quel niveau de langage on est arrivé pour que de nos jours on puisse associer dans l'intitulé d'une loi la lutte contre le terrorisme et la fraude contre les transports en commun, comme s'il y avait un lien entre les deux. Mais ils se rendent pas compte, d'un point de vue de vocabulaire, de ce qu'ils font. Et donc, dans cette loi, ils ont créé un dispositif qui permet de licencier, par exemple, des salariés de la RATP et de la SNCF, d'entreprises de transport, dont le comportement est suspect. J'ai perdu le fil, là, mais... La question, c'est comment on sait que le comportement de... Ah oui, voilà, non, excusez-moi, ça, j'ai retrouvé. En fait, la loi, elle dit, voilà, c'est pour des postes sensibles. Pour les postes, pas tous les salariés de la RATP ou de la SNCF, et les entreprises de transport, je pense que ça s'applique aussi à la société de transport ici à Toulouse, je connais pas son nom, je suis désolé. Mais voilà, je pense que ça s'applique aussi ici. Et en fait, cette loi... Elle va dire, c'est uniquement pour les postes sensibles. La question, c'est quoi les postes sensibles ? Enfin, je vous le donne en mille, c'est par exemple conducteur de métro. Donc, ou conducteur de bus, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est l'attentat de Nice de 2016 qui leur trotte dans l'esprit. Ils vont se dire, un conducteur de bus un peu trop barbu, il va avoir qu'une envie, c'est de foncer avec son bus dans une foule. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça qu'ils ont derrière la tête. Ils l'ont pas dit expressément, mais je sais pas. Mais bon, bref. Donc, si la RATP soupçonne un de ses salariés, conducteur de bus ou de métro, d'avoir un comportement un peu suspect, ou alors même si vous avez quelqu'un qui à la RATP par exemple occupe un poste qui n'est pas un poste sensible mais veut devenir conducteur de métro, eh bien la RATP va transmettre le dossier de cet individu au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est en l'occurrence un truc qui s'appelle le SNEAS, le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité. C'est vraiment tout un poème. Donc ces policiers vont faire une enquête sur la personne. Et ils vont dire à la RATP, bon bah cette personne est dangereuse. Je dis incompatibilité avec le poste de conducteur de métro. Mais en fait, ils ne vont jamais nous dire pourquoi cette personne est dangereuse. On va même pas pouvoir en discuter. On va pas savoir, ils vont rien dire. Mais voilà, mais donc c'est ça la société de vigilance. C'est très concrètement des personnes qui peuvent perdre leur emploi sur la base d'une enquête de police qu'on ne nous communique pas et qu'on ne peut pas discuter. Donc la société de vigilance, c'est un pouvoir discrétionnaire et incontrôlé donné à des policiers des services de renseignement. C'est ça qu'ils appellent de leur vœu, en fait. Et moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, pas parce que je déteste la police, ou que je sais pas, mais parce que, en fait, les policiers des services de renseignement, eh ben, ils sont comme vous et moi, ils peuvent se tromper. Et je l'ai vu très concrètement dans des dossiers. Parfois, on a accès à des notes blanches, pas dans ces dossiers-là sur la RATP, mais on a parfois accès à des notes blanches qui nous disent ben « Voilà, votre client, il est dangereux, on lui reproche d'avoir participé à telle manif, et donc il est dangereux. » Donc là, à la limite, on a des éléments, etc., et on peut en discuter. Mais quand ils nous donnent ça, les services de renseignement, eh bien, on voit parfois qu'ils se trompent. Et donc, si on commence avec la société de vigilance à donner ce pouvoir-là à des policiers qui peuvent se tromper, et donc que des personnes peuvent perdre leur emploi ou être fichées S et donc en subir les conséquences lorsque, comme ça m'était arrivé il y a quelques années quand je défendais un gars de quartier en banlieue parisienne qui était devenu entraîneur de foot de la petite ville où il habitait et à qui on reprochait d'aller un peu trop souvent à la mosquée. Donc il était fiché S, il savait pas pourquoi. On lui a jamais dit, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Gaspard Glanz, on peut pas contester les fiches S. C'est complètement absurde. Mais il y a je ne sais qui a filé l'information à un journaliste. Et l'info a fait la une du journal de 20h de TF1. Et le type a été viré de son poste d'entraîneur de foot dans la minute par le maire de la ville. Alors que même, si ça se trouve, tout ce qui est écrit dans sa fiche S est complètement erroné. Donc voilà, voilà les lois scélérates. Je pense que vous l'avez compris, hein, la loi Savary 2016, pour moi, c'est une loi scélérate. Je vous donne un exemple, j'en parle pas dans le bouquin, donc voilà. Et ce qui nous prépare avec la société de vigilance, je pense qu'il faut faire gaffe, et je pense que ça peut déboucher sur l'adoption de lois scélérates.
C'était Raphaël Kempf qui présentait son livre « Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes ».
Radio Livre d'Armée.